La méditation, c'est un chemin de connaissance. Et le Bouddha a dit, lorsque tu connais ton esprit, tu connais la totalité du Dharma. Donc on pourrait dire que nous sommes dans une science de l'esprit. C'est un travail méthodique, le chemin progressif est un travail méthodique. Le but, c'est le lâcher prise. Mais avant de pouvoir lâcher prise, nous devons laisser être, rencontrer l'instant tel qu'il est. Et ça demande de la bonne volonté et du courage. Ça demande d'accepter de voir ce moi prioritaire qui est fermé parfois, égoïste. Le corps de peur qui peu à peu se délie et ce qui s'ouvre, c'est une disponibilité, une abondance qui peut être au service. Et d'une certaine manière, ce à quoi nous aspirons, c'est le bonheur. Mais lorsque je veux mon bonheur, je crée ma souffrance. Parce que le bonheur, il est ici et maintenant. Et ce soir, j'aimerais vous proposer une réflexion sur la pensée, ce qu'on appelle les sankharas, cette pensée qui est subjective, limitée, liée au temps et à l'espace, à la personnalité. La pensée ou les constructions mentales, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, qui peut être au service du bien ou au service du mal, dû à l'aveuglement. C'est quelque chose qui peut être merveilleux ou monstrueux. Et c'est merveilleux ou monstrueux en moi et à l'extérieur. Le nazisme était un système conceptuel, déviant. Ou le régime de Pol Pot. Le capitalisme. Là, je viens de lire un bouquin d'un Africain qui s'appelle Amadou Ampateba et qui donne ses valeurs de l'Afrique profonde. Je me disais, mais mon Dieu, mais l'aveuglement qu'il y a dans ce 21e siècle occidental. Mais c'est hallucinant. Le sens du respect, de l'honneur, de l'hospitalité, du soutien à nos proches. Pas. Quelle souffrance. Hein? Le système conceptuel nous met dans une forme d'hypnose. Et c'est souvent une hypnose de groupe. Qui nous agrippe, qui nous prend. Et la méditation, c'est un travail de déshypnose. Au lieu de me considérer moi-même et de considérer les autres dans ce que je pense de l'expérience, je viens dans cette intimité. J'ai cette bonne volonté de dire. Non pas ce que je pense des choses et des gens et de moi-même, mais ce qui est. Ça, c'est cette science de l'esprit dont parle le Bouddha. En retraite, nous pouvons bien voir comment la pensée fonctionne. Elle devient souvent exacerbée pour différentes raisons, parce que nous meublons l'ennui, parce que nous nous protégeons par la pensée pour éviter de voir. Je ne veux pas aller là où ça fait mal. Alors je mets des concepts sur les choses. Je ne peux pas prendre ma responsabilité, admettre que le seul créateur, c'est moi. Alors la pensée vient comme une sorte d'écran. La pensée est aussi, peu à peu, en apprenant à la recevoir, elle devient discernement, c'est-à-dire que il y a un choix, je peux choisir. Je vais dans l'histoire, dans la réflexion, dans tout ce qu'elle me raconte, ou bien je sors de l'histoire. Et je vois la pensée pour ce qu'elle est intrinsèquement. On l'a déjà dit, passé, futur, évaluation, jugement, critique ou discernement, commentaire. La pensée est quelquefois sagesse, lorsque tout à coup ce qui vient c'est « Ah ouais !» Et si vous remarquez quand ça fait « Ah oui !» il y a d'abord l'expérience. Et la pensée vient juste pour nommer ce qui vient d'être vécu. Et puis, il y a cette pensée qui nous fait peur, mais qui est en fait tellement utile. C'est celle qui vient quand nous rencontrons nos nœuds, les endroits, les habitudes, les nœuds psychologiques de la personne qui impliquent cet envahissement conceptuel, cet agrippement conceptuel. Il faut savoir que la méditation amène l'ombre au premier plan. Et elle amène l'ombre au premier plan pour nous faire comprendre la première vérité. La souffrance existe. Et la seule manière de nous libérer de la souffrance, c'est de sortir de ce déni de sa propre existence. Et alors nous apprenons comment la lumière est à l'intérieur de l'ombre. Donc, d'une certaine manière, nous voyons de plus en plus profondément. Et la première chose que nous voyons par rapport à la pensée, c'est comment nous sommes envahis. Nous sommes complètement envahis et puis on sort un petit coup. Et puis on est de nouveau complètement envahis, puis on ressort un petit coup. Et puis on y retourne dedans, puis on y retourne dehors. Et puis, peu à peu, nous arrivons à voir « Ah, j'y crois ». J'y crois. Ah ben ouais, là j'y crois. Ça semble tellement vrai. Ou j'y ai cru. Peut-être que dans l'instant nous ne voyons pas comment nous y croyons, mais après, ah ouais, j'y ai cru. Quel pouvoir j'ai donné à ce que la pensée me disait. Et cette première phase est indispensable. C'est indispensable de voir ça avec bienveillance. La méditation, c'est un chemin d'humilité. Ce n'est pas toujours glorieux, ce que nous sommes amenés à rencontrer. Lorsque nous sommes dans cet envahissement conceptuel, la pensée est notre maître. Et d'une certaine manière, je suis en prison. Je donne le pouvoir aux conditions. Et j'aimerais redire à quel point c'est OK. Mais il faut le voir. C'est Ramdas qui disait, vous vous prenez trop personnellement. Vous restez sous l'arbre touffu de vos pensées et vous vous plaignez de ne pas voir le soleil. Voir à chaque fois que je prends les choses personnellement. Et en approfondissant avec intérêt la nature humaine en moi et avec questionnement, cette exploration, j'ose questionner quelle est l'expérience et aller voir ce qu'il y a derrière la pensée. Et le questionnement, au lieu qu'il soit lié à un changement du monde conditionné, il est lié à comment faire pour me lier de la bonne manière à l'instant. Comment faire pour lâcher prise ici et maintenant? Parce que ce qui devient de plus en plus évident, c'est à quel point il n'y a absolument rien de meilleur que le simple lâcher prise. Au niveau énergétique, ce mouvement-là, waouh, il n'y a rien de meilleur. La plus belle rencontre avec Dieu n'est pas meilleure que juste ce mouvement-là. Pas de moi. Donc le questionnement, c'est plutôt comment me libérer de l'agrippement. Et la pensée se transforme, ça devient une pensée qui se met au service du dharma, qui fait que elle devient serviteur. Et dans ce travail, il y a ce que nous entendons avec nos oreilles, ce que nous pratiquons, et ce que nous découvrons, et ce que nous perdons. Et ce que nous entendons de nouveau, et ce que nous pratiquons, ce que nous trouvons, et ce que nous perdons. Et ça recommence. C'est jamais acquis. Il n'y a pas quelque chose qui va pouvoir nous dire, ah ben, ça y est, j'y suis. Si je dis ça, je peux mettre 3 points d'exclamation, attention, attention. Parce que nous passons notre temps à vouloir que le monde conditionné soit parfait. Nous sommes perdus à la recherche du plaisir. Nous sommes perdus dans la peur de la peine, dans le besoin de réussite, dans l'aspiration à la louange et à l'amour. Et par définition, si nous aspirons à l'amour, c'est que nous ne l'avons pas. J'aimerais juste vous reprendre. Le Bouddha parle de la manière dont l'expérience se crée. Et j'aimerais juste reprendre ça. Si vous arrivez à le mettre en lien avec votre propre expérience, c'est bon. Comment l'expérience se crée? Ça n'a rien à voir avec pourquoi cette expérience se crée. Pourquoi elle se crée, personne ne le sait. Ça, c'est le mystère du mystère. Mais comment elle se crée? La méditation peut nous amener à explorer ce qu'on appelle les cinq khandas, c'est-à-dire ce qui forme la personnalité. Le corps est le monde matériel extérieur. Le ressenti est la perception ou la représentation. Chaque ressenti implique un souvenir. Les constructions mentales et la conscience. La conscience accompagne les quatre autres instances, aspects de la personnalité. La conscience ordinaire, simplement juste maintenant on ne dort pas, on est réveillé, on sait qu'on a un corps, qu'on a des ressentis, qu'on a des pensées. Donc ce qui se passe, c'est que l'attention dans le présent est attirée par quelque chose, un contact, un impact. Par exemple, là tout à l'heure, je me baladais et puis je me suis approchée de la ferme qui est là-bas. Et quand j'ai vu la ferme, il y a eu un contact avec le souvenir d'un chien. Dans une ferme, il y a un chien. Et comme j'ai été mordue par des chiens, le ressenti était désagréable. Le souvenir, c'était ce problème que j'avais eu avec les chiens. Et du coup, ça a créé des constructions mentales. Quelquefois, c'est le sens de la vue. Là, c'était le sens de la vue qui a créé l'expérience. Mais ça peut être une pensée. Le Bouddha a parlé de six sens. C'est les cinq sens physiques. La vue, l'odorat, l'ouïe, la perception corporelle, et puis quoi, le goût. Et l'esprit. L'esprit est une porte d'entrée pour que l'expérience se crée. Le souvenir. Combien de nos expériences dans une retraite sont créées sur la base d'un souvenir? Et bien sûr, cette pensée qui fait référence au passé, elle se passe ici et maintenant. D'une certaine manière, elle n'a rien à voir avec le passé. Elle est ici et maintenant. Donc il y a ce contact entre le corps et l'esprit et le monde extérieur. Même si c'est une pensée, c'est le monde extérieur. Il a été construit dans le passé par rapport au monde. Et ça crée des émotions. Ça crée un ressenti émotionnel qui est accompagné de la pensée associative, d'images. C'est un réel qui peut être très puissant. C'est ce qu'on appelle tanha. La soif. La soif d'avoir, si tout ça est lié à quelque chose de bon, et la soif de rejeter, si tout ça est lié à quelque chose de douloureux. Et nous sommes, le corps et l'esprit forment un tout, et nous pouvons expérimenter combien cette soif ou cet envahissement dans l'instant est lié au corps et à l'esprit. Le corps est pris. Toutes les cellules vibrent. C'est fort. Ou bien, un autre exemple, quelqu'un dans notre entourage souffre. Ou bien moi, je souffre. Et ça engendre de la peur, ça engendre de l'inquiétude. Et à nouveau, il y a cet envahissement énergétique, puissant. Et nous ne pouvons rien faire, c'est là, c'est le réel. Alors, où est-ce que nous pouvons sortir de cet agrippement, de cette saisie énergétique et conceptuelle. Bien, c'est en ouvrant notre cœur, en reconnaissant, en étant présent à l'expérience, parce que là où nous pouvons couper le processus de création, c'est à ce moment-là. Nous avons le choix par rapport aux constructions mentales qui sont les nôtres. La sagesse et l'investigation, elle permet de nous arrêter au moment où il y a la ferme, il y a l'image du chien et la peur. Là, je peux m'arrêter et dire, ok, qu'est-ce que je fais ? Investigation. Il y a un souvenir de quelque chose de très dur au niveau relationnel qui s'est passé. Ça crée de l'inquiétude et cet agrippement et cette espèce de... de fermeture, de lourdeur, d'intensité émotionnelle dans l'instant. Ok, la pleine conscience peut voir. D'accord, c'est là. Qu'est-ce que j'en fais ? Un esprit qui n'est pas développé, qui n'a pas travaillé cette ouverture du cœur aux émotions perturbatrices, part dans les constructions mentales et dans les scénarios et dans la panique conceptuelle, sans même voir que ce sont des constructions. Je vous lis ce que dit le Bouddha dans le Honeyball Sutta. Bhikkhu, ce sont les moines. Quant à la source à travers laquelle les perceptions et les notions, nées de la prolifération mentale, emprisonnent l'être, si rien n'est trouvé dans ces pensées pour s'y réjouir, pour être accueillant et pour s'attacher, c'est la fin des tendances sous-jacentes à la convoitise, à l'aversion, aux opinions fixes, aux doutes, à l'orgueil, au désir d'existence et de non-existence, à l'ignorance. C'est la fin de l'emploi des armes, des querelles, des disputes, des récriminations, des mots méchants et de la parole qui sépare. Là, ces états malsains s'arrêtent sans qu'il n'en reste rien.
C'était quoi le début, si quoi ?
Si rien n'est trouvé dans ses pensées pour s'y réjouir, pour être accueillant et s'attacher, c'est la fin des tendances sous-jacentes à la convoitise, à l'aversion, aux opinions fixes, aux doutes, à l'orgueil, au désir d'existence et de non-existence à l'ignorance. Nous nous réjouissons de nos pensées, même de nos pensées négatives, même des pensées porteuses d'aveuglement. Nous ne les voyons pas pour ce qu'elles sont, juste des pensées. Et c'est ce qui mène aux paroles et aux actes que parfois nous regrettons par la suite. Et c'est ok, nous pouvons toujours demander pardon, nous pouvons toujours être humbles, accepter nos erreurs. Mais nous aspirons à plus que ça, nous aspirons à pouvoir être libres, C'est le Dalai Lama qui dit « Prends soin de tes pensées parce qu'elles deviendront des mots. Prends soin de tes paroles parce qu'elles deviendront des actes. Prends soin de tes actes parce qu'ils deviendront des habitudes. Prends soin de tes habitudes parce qu'elles formeront ton caractère. Prends soin de ton caractère parce qu'il déterminera ton destin. Et ton destin sera ta vie. » Donc, c'est important de sentir ces moments d'épreuve où l'agrippement est là. Il n'y a pas seulement la soif. Il y a encore cette saisie de l'expérience. C'est de l'aveuglement et nous pouvons voir comment je ne peux pas ne pas le faire. Les pensées obsessionnelles, c'est fort et je ne peux pas éviter que ce soit là. Ça tourne. Et il y a ce questionnement, cette investigation, non pas pourquoi c'est là, comment je peux changer les choses pour être un peu soulagée, non, mais comment être libérée du processus. Et c'est la même chose avec un contact très très agréable. Là, je vous le montre avec ces contacts douloureux, mais c'est tout pareil. Lorsque le contact ou l'impact est très agréable, tout le corps vibre, tout le corps est bien, content, sensible. Et ça fait du bien. Le ressenti est que c'est juste, c'est sage, je veux bien que ça continue. Mais quelquefois, lorsque c'est trop fort, il n'y a pas d'espace. Je ne peux pas imaginer de dire « Ok, ben tant pis, je laisse. » Non, je veux ça, c'est trop bon, je le veux. Il n'y a pas de questionnement. Il y a la jouissance, mais elle est peut-être consciente, mais elle n'a pas le choix. J'ai besoin de cette jouissance. Et c'est tout pareil. Si j'ai besoin de cette jouissance, c'est vraiment la base même de la souffrance que je construis moi-même. Je la construis moi-même. Donc, osons rencontrer ces moments où je hais, ou bien où j'aime. Et voyons le processus. C'est essentiel, mais ça n'est pas suffisant. C'est important, mais le processus permet d'amener une part de pleine conscience pour pouvoir lâcher, mais il y a encore autre chose. C'est ce qu'on appelle sati sampajana, c'est-à-dire la pleine conscience qui se développe par la rencontre à l'expérience, mais aussi cette sagesse qui fait que je reconnais la première vérité et qu'il n'y a pas de déni. Et que quand les pensées sont douloureuses et qu'elles tournent, ok, c'est la souffrance. C'est très fort de voir à quel point, quand quelqu'un nous partage sa souffrance, c'est facile d'avoir une certaine distance, de pouvoir être en compassion ou en tout cas en empathie, pour autant que ce soit quelqu'un de pas trop proche de nous encore. Si c'est quelqu'un de bien proche, ça devient difficile. Mais pour nous-mêmes. Et la deuxième vérité, voir ces pensées qui collent. je ne suis pas libre, ouvrir son cœur et attendre. Et voir cette troisième vérité qui est le lâcher-prise. La pensée envahissante, elle est liée à cette vulnérabilité. Nous sommes vulnérables. Nous avons tellement besoin de nous sentir reliés, de nous sentir pleins, de nous sentir unifiés. Et il y a une telle peur d'être seul, d'être abandonné, d'être perdu. Et comme cette vulnérabilité n'ose pas se montrer, alors nous couvrons ça par la haine, par la peur, par la tristesse, et la pensée nous emmène puissamment en enfer ou au paradis lorsque nous en sortons. Cette pensée envahissante, c'est juste une pensée, et notre travail, c'est de venir dans l'intimité de l'instant, sans jugement. Et cette vérité-là, cette manière d'être authentique avec l'expérience, elle va nous rendre libres. Elle va nous rendre libres. Mais d'abord, elle va peut-être nous mettre à l'épreuve. Ça ne va pas se faire tout seul. Parce qu'une part de nous ne veut pas voir. Une part de nous fait l'autruche. Il y a ces deux sortes de pensées, celle qui est investigation, discernement, qui est liée à la générosité, à l'espace, à la bienveillance. Et cette autre pensée qui devient tout à coup hostile, dure, jugeante, des obsessions liées au désir, des attachements à mes opinions, il n'y a plus d'espace. Nous sommes dans cette histoire où j'ai raison, tu as tort ou le contraire. Et c'est ça qui mène au désespoir. Il y a une petite histoire, pas très drôle, mais très intéressante, que j'ai entendue l'autre jour. C'est un thérapeute ou un médecin. J'ai remplacé un jour un collègue pour le week-end et j'ai reçu un coup de fil d'un homme qui m'a dit être debout sur le bord de la fenêtre au 26e étage à New York. L'homme se disait prêt à sauter. J'imaginais son squelette fragile se fracassant sur l'avenue 70 mètres plus bas. Je m'entendis lui dire « Pensez-vous que vous pourriez reporter votre projet et juste attendre lundi que le docteur Lewis soit de retour ?» J'entendais le silence mêlé au bruit de la rue, les taxis, les cris des enfants, les portes qui claquent, les aboiements des chiens. Et j'entendis l'air qui entrait et sortait de ses poumons au moment où sa pensée lâcha prise, comme un poisson qui arrive au bout de son bocal et qui se retourne. J'étais là au téléphone, tout près de lui, à nager avec lui. « Ok, » dit-il, « ok. Donc cette référence aux paroles du Bouddha, qui sont des paroles qui aident, non pas qui disent les choses sont comme ça. La première vérité, elle n'a aucune valeur en elle-même. Elle a seulement une valeur si je peux en faire quelque chose pour me libérer dans l'instant. Et si je peux faire référence à cette première vérité, lorsque je sens ces pensées obsessionnelles, négatives, dévalorisantes qui sont là, juste maintenant, il y a souffrance. Et c'est la première vérité. C'est l'expérience humaine partagée. Et ensuite, je peux continuer à explorer et voir, il y a un attachement. Je crois à ces pensées. Je les fais miennes. Et parce que j'accepte cet attachement, parce que je vois cette identification, ça lâche. À un moment donné, ça lâche. Et l'expérience devient discernement. Le Bouddha parle pour cette troisième vérité de la cessation, quelque chose s'arrête. C'est ce jeu entre l'attachement et l'aversion qui est aveuglement. Il parle de non-passion. Quelque chose arrête d'avoir besoin de vivre dans les intensités de merveilleux et de terrible. Ce qui est simple, neutre, tranquille et calme devient prioritaire. Se moucher devient bon. La cessation, la non-passion est le désenchantement. Nous ne sommes plus enchantés par le monde conditionné. Il est ce qu'il est, il est bon tel qu'il est. Mais nous ne lui demandons pas de nous donner ce qu'il ne peut pas nous donner. Il ne peut pas nous donner ce à quoi nous aspirons. Mais nous pouvons nous le donner nous-mêmes. Quand on a demandé à Ram Dass sa filiation, il a parlé de ses origines juives et puis il a donné toutes les explications par rapport à son origine juive. Et puis après il a dit, mais souvenez-vous que je ne suis juif que du côté de mes parents. Il y a cette appartenance universelle. Et dans l'exercice de la méditation, nous pouvons l'expérimenter lorsque nous valorisons notre humanité avec ses fragilités, ses limites, ses aveuglements, mais que nous savons être aussi avec le silence et l'espace, et avec ce sens de cette fraternité dans nos limites. Et c'est ce qui ouvre le cœur à l'altruisme et à la simplicité. J'aimerais finir avec une parole de Eckhart Tolle. Je ne suis pas le contenu de ma vie, pensée, émotion, perception, expérience sont le contenu de ma vie. Ce qui se passe dans ma vie n'est pas ce que je suis. La vie est vécue à moitié, car je suis dans la confusion. Le présent est assombri par le temps. Je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie. Je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience universelle. Je suis.